vais peut-être décevoir l'attente de Paul. La lecture de ce matin ne sera pas longue. Différence. Ce sera même une lecture d'un des plus courts versets de la Bible. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Souvent, la Bible nous place face à des recommandations ou affirmations étonnantes. La parole de Dieu, c'est vrai, nous remet souvent en question, bouleverse nos façons usuelles de penser, d'envisager les choses. Elle nous oblige à voir neuf, aimer vos ennemis, heureux ceux qui pleurent, heureux les pauvres, celui qui s'élève sera abaissé. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Il faut que vous naissiez de nouveau. Soyez toujours joyeux. Nous pourrions multiplier les exemples de paroles de Dieu qui nous sont adressées et qui prennent le contre-pied, souvent, de ce à quoi nous nous attendons et qui sont là comme pour nous provoquer à réexaminer notre jugement, notre attitude dans la vie. Il en est ainsi pour cet appel lancé par l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, à prier sans cesse après cet autre, à toujours se réjouir, et avant cet autre encore, les appelant à rendre grâce en toutes circonstances. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 et verset 18. Priez sans cesse, verset 17. Je vous proposerai ce matin de chercher à tirer un enseignement contenu dans cette exhortation a priori surprenante. Priez sans cesse. En effet, voilà bien une demande, une injonction surprenante. Priez, oui, sans doute. Priez régulièrement, tous les matins ou tous les soirs, ou le dimanche, ou dans les grandes occasions, d'accord. Priez souvent, c'est bien sans doute. Priez sans cesse, cela nous paraît non seulement surprenant, mais difficile, voire impossible. Il y a d'autres choses à faire que de prier. Il faut aussi, diront peut-être les plus spirituels d'entre nous, agir, c'est-à-dire parler de Dieu, évangéliser, passer à l'action, comme l'apôtre Paul lui-même qui a été ô combien un homme d'action. Ce propos sur la prière, il vaut peut-être mieux le considérer comme une exagération momentanée de la pensée de l'apôtre. Prions, mais oublions-le sans cesse. Ainsi, les choses seront plus faciles, plus logiques, plus raisonnables. Peut-être ceux d'entre nous qui sont moins spirituels diront ou penseront qu'il y a d'autres raisons pour ne pas prier sans cesse. Il y a effectivement des choses à faire, d'autres choses que de prier. Il faut travailler, n'est-ce pas ? Il faut dormir, il faut se reposer, il faut un peu s'amuser aussi. Et prier, ce n'est peut-être pas toujours amusant. Il faut plutôt étouffer ce genre de commandement. Cela pourrait conduire les gens à penser que vivre en chrétien, finalement, ça doit être bien pénible s'il faut prier sans cesse. Vous imaginez ça ? Prier sans cesse. Si vous présentez l'évangile à quelqu'un, il vaut peut-être mieux ne pas lui laisser entendre des choses de ce genre, qu'il aura à prier sans cesse, prier tout le temps. Un peu comme si vous voulez vendre votre maison à quelqu'un et que vous lui disiez dans le même temps qu'il va devoir passer tous ses week-ends et ses vacances à la maintenir en état à peu près. Déraisonnable. C'est vrai que la parole de Dieu est parfois déraisonnable. Est-ce que, sincèrement, il ne nous arrive pas de penser un peu cela ? Est-ce qu'il ne nous arrive pas de penser un peu comme j'ai essayé de le faire de façon, je l'admets, caricaturale, face à ce verset ? Je crois bien que oui, sans doute. En tous les cas, je dois admettre qu'il m'arrive de penser un peu comme cela. Mais je sais bien, si je réfléchis, et nous savons bien que ce n'est pas la parole de Dieu qui est déraisonnable, mais plutôt nous-mêmes. Nous qui avons, hélas, l'intelligence obscurcie, comme obérée par le péché, par le doute. Notre raisonnement naturel est malade, et il nous faut toujours être renouvelé dans notre intelligence, dans notre raison, pour comprendre vraiment la pensée de Dieu et en être enrichi. Et nous pouvons vraiment remercier Dieu de ce qu'il nous stimule ainsi dans la réflexion par sa parole, qu'il ne nous laisse pas croupir dans notre état, dans notre infirmité de pensée, dans notre cécité spirituelle. Alors comment comprendre cette phrase de Paul, prier sans cesse? D'abord, et bien sûr, nous pouvons affirmer que Paul ne veut pas nous demander quelque chose d'impossible ou qui confinerait à la folie. Dieu sait bien que nous avons besoin de dormir, que nous avons besoin de travailler. Il ne condamne pas notre repos non plus ou nos plaisirs pourvu qu'ils soient sains. Et Dieu veut certes que nous agissions. Jésus ne dit-il pas à ses disciples, « Allez, vous-même faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, faites des disciples, agissez. » C'est là le mot d'ordre qu'il leur laisse, un mot d'ordre qui mène directement à l'action et pas seulement à la prière. Quand il nous est dit de prier sans cesse, il ne s'agit pas donc de quelque chose qui impliquerait la suppression, le déni de toute autre activité humaine. Bien au contraire, Jésus a prié son Père au sujet de ses disciples, non qu'il les ôte du monde, non qu'il soit à l'écart et simplement à prier, mais qu'il les protège du monde et il envoie ses disciples pour qu'ils soient ses témoins. Oui, c'est vrai, Jésus veut des disciples actifs, engagés dans un combat, engagés dans le monde pour témoigner. L'appel à la prière doit être compris dans ce cadre général. Alors, nous comprenons que prier sans cesse, cela doit avoir la signification d'être en permanence dans une attitude de prière, dans une attitude qui peut être gardée alors même que nous sommes engagés dans une activité autre que la prière. Nous pouvons peut-être aller jusqu'à dire qu'il est possible de cette façon de prier en dormant. C'est l'attitude qui consiste à s'endormir dans la confiance en Dieu et à se réveiller dans cette même confiance, ainsi que l'exprime par exemple le psalmiste au psaume 3, lorsqu'il écrit, versets 5 à 6, « Si j'appelle le Seigneur à mon secours, il me répond de sa montagne sainte. Je me suis endormi pour la nuit. À mon réveil, je découvre que le Seigneur est mon appui. » Je me suis endormi pour la nuit. À mon réveil, je découvre que le Seigneur est mon appui. Oui, prier sans cesse, c'est être en permanence dans une attitude de communion avec Dieu. J'aimerais que nous approfondissions un peu maintenant ce qui concerne d'abord la prière à Dieu et d'autre part cette permanence de la communion à Dieu dans et par la prière. Qu'est-ce que la prière? C'est pour l'homme se tourner vers Dieu, lui parler, le questionner, lui demander des choses précises ou générales. C'est aussi accepter d'être questionné par lui, remis sur d'autres voies, engagé dans d'autres perspectives. C'est écouter Dieu. C'est se mettre dans cette écoute. La prière, en fait, semble être une chose assez naturelle à l'homme. Rares, je crois, sont les civilisations, les sociétés où n'existe pas du tout une forme de prière. Alors c'est vrai que cette prière prend parfois des allures particulières, bizarres. Elle est accompagnée de sites religieuses ou magiques, de superstitions. Elle s'adresse souvent à des dieux qui sont évidemment de faux dieux. Elle est souvent faite d'une manière automatique, d'une manière sans doute qui déplaît à Dieu plutôt qu'autre chose. Elle est souvent le contraire d'une juste attitude devant le Seigneur. Mais elle existe donc à un état soit embryonnaire, soit corrompu, souvent, et c'est rarement qu'elle est complètement absente. Même les hommes qui ne croient pas en Dieu tentent à prier à l'occasion, en cas de danger imminent, face à la maladie, à la mort. Je me souviens dans un roman de Roger Martin Dugard, le héros qui est athée, convaincu, et qui veut insister là-dessus, est victime d'un accident de circulation, et au moment où il pense que peut-être il va mourir, il prie, « Dieu, sauve-moi !» Après coup, il est très étonné de cette prière qu'il a faite. « Seigneur, sauve-moi, moi qui ne crois pas en toi du tout, sauve-moi » Face à ce qu'ils craignent ou à ce qu'ils espèrent, les hommes incrédules prient parfois. C'est souvent une prière qui elle-même est déguisée, certainement, dont on ne peut raisonnablement attendre grand-chose, mais une prière qui témoigne quand même du maintien élémentaire chez le plus incrédule, chez le plus éloigné de Dieu, de l'idée, de l'espoir qu'il existe quelqu'un plus grand que nous, qui peut des choses pour nous, qui pourrait entendre et agir. Mais bien sûr, la prière selon Dieu, c'est autre chose. La prière selon Dieu, c'est une relation entre l'homme et son Dieu. C'est pour l'homme de reconnaître qu'il est dépendant de Dieu. C'est lui soumettre sa vie, lui demander ce dont il a besoin et le remercier pour ce qu'il reçoit, pour ce qu'il vit. La prière est résumée quant à l'attitude à avoir et à ce qu'elle doit exprimer dans ce que Jésus dit à ses disciples lorsqu'il leur apprend, dit-il, à prier dans ce texte bien connu de Matthieu au chapitre 6, versets 5 à 13. « Quand vous priez, dit-il, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. » Sans doute leur récompense, c'est ce qu'ils imaginent du regard d'admiration des autres. « Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Ton Père qui est là, dans cet endroit secret, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Quand vous priez, ne prononcez pas un grand nombre de paroles comme font les païens. Ils s'imaginent que Dieu les écoutera s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas, car Dieu, votre Père, sait de quoi vous avez besoin déjà, avant que vous le lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que la sainteté de ton nom soit reconnue, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui la nourriture nécessaire. Pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Pouvons reprendre rapidement cet enseignement, évidemment de manière toute rapide et superficielle, trop superficielle. Verset 5. Il n'y a pas de condamnation là de toute prière en public, bien évidemment, mais une mise en garde sur l'attitude à avoir, sur le fait de se méfier des apparences, sur le fait qu'il s'agit d'être en relation avec Dieu, peut-être, comme c'est le cas lorsque nous prions ici, peut-être le faire au nom des frères et sœurs, mais pas seulement pour nous-mêmes, représentant l'Église, mais en sachant que c'est à Dieu que nous nous adressons. Verset 6, Jésus insiste, la prière, c'est dans l'humilité, la simplicité, la confiance. Versets 7 à 8, quand vous priez, ne prononcez pas un grand nombre de paroles comme font les païens. S'imagine que Dieu les écoutera s'ils parlent beaucoup. Rien d'automatique dans la prière. Elle n'est pas une machine qui donne ce que l'on attend parce que l'on appuie sur le bon bouton au bon moment. Seigneur, fais ceci et cela et encore. Ah, j'ai oublié telle chose. Seigneur, fais aussi ça, je t'en prie. Cela ne sert à rien de multiplier les paroles, de redire les mêmes choses, comme si cela allait convaincre Dieu ou nous mériter quelque chose. Et ça n'est certainement pas parce que l'on dira plusieurs fois de suite cette prière de notre Père que nous obtiendrons quelque chose, si nous le faisons en pensant quelque part que, comme c'était hélas le cas souvent, que cela mériterait quelque chose ou réparerait un certain nombre de péchés. On parle parfois de la puissance de la prière. Il faut plutôt parler de la puissance de Dieu dont nous avons conscience, dont nous prenons conscience par la prière. Et puis Jésus, dans cette prière, où il est évident qu'il ne s'agit pas pour les disciples d'apprendre par cœur un texte dont ils se serviraient toujours et uniquement. Il s'agit qu'ils comprennent des vérités essentielles sur la prière. Ils prient leur Père. leur Père dans les cieux. Nous prions notre Père. Quelle chose merveilleuse. Nous prions notre Père qui est Dieu. Mais Dieu qui est dans les cieux, qui est le Créateur, qui est le Dieu éternel, tout-puissant, juste, saint. Les disciples doivent se placer, les chrétiens doivent se placer dans une attitude de dépendance au plan matériel et spirituel, dans une attitude de proclamation de sa gloire, dans une attitude d'attente de la plénitude de son règne dans le monde et déjà en nous-mêmes, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos actes, dans une attitude de reconnaissance de leur état d'homme pécheur en besoin de la grâce. Pardonne-nous nos péchés. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous aujourd'hui notre péché. Oui, toute prière doit reposer sur une attitude de notre part où ces éléments sont présents. Nous prions celui qui est notre Père. Mais l'est-il ? Mais l'est-il ? Pour qu'il le soit, il faut que nous ayons reçu l'adoption qu'il propose à ceux qu'il aime, qui ont accepté son Fils comme leur Sauveur, que nous ayons accepté d'être sauvés de la mort spirituelle. Est-il notre Père ? Si nous prions justement, nous disons, nous affirmons notre dépendance vis-à-vis de Dieu, dans notre vie à tout point de vue, matériel, spirituel, moral, relationnel, notre prière doit contenir cela. Nous affirmons en priant que nous sommes des pécheurs en perpétuel besoin de la grâce de Dieu et nous réjouissons de ce pardon qui nous a été donné. Nous proclamons notre attente de ce temps béni où le règne de Dieu sera complet et nous nous réjouissons dans la perspective du retour de Christ. Enfin, nous louons Dieu, nous le glorifions car il en est digne, il est le seul digne, le seul à mériter cela. Non pas les puissants, non pas les célèbres, non pas les grands hommes, mais Dieu et Dieu seulement. Tous ces éléments doivent être présents en nous quand nous prions. Ils doivent guider nos prières, sous-tendre notre attitude et nos paroles vis-à-vis de Dieu. Est-ce là le cas dans la prière, dans nos prières ? Ou est-ce que nous devons reconnaître que trop souvent, nous prions sans penser à comment nous nous présentons devant Dieu, à ce que nous lui demandons vraiment. Nous prions parfois avec trop d'anxiété ou avec l'idée que nous devons convaincre Dieu ou comme une nécessité de lui expliquer les choses, des fois qu'il ne le sache. Ou comme encore un devoir religieux à accomplir. Mais ce n'est pas cela, prier comme nous y sommes appelés par Jésus lui-même. Prier, c'est être dans une relation intime, profonde, avec lui, à qui nous devons la vie, à qui nous devons le maintien de cette vie, qui nous donne toute chose et vers lequel nous allons. Prier, c'est, nous l'avons dit, écouter Dieu, c'est-à-dire lire sa parole, qu'elle inspire elle-même nombre de nos prières, méditer cette parole, et puis dans la prière, savoir aussi nous taire et nous mettre vraiment à l'écoute de ce que Dieu, dans le secret de nos cœurs, peut nous dire. S'il nous amène dans notre réflexion à nous pencher davantage sur ce prier sans cesse, qui de prime abord nous surprenait dans la recommandation de Paul, dont je pense que nous avons vu déjà qu'il s'agit de vivre en permanence une relation avec Dieu par la prière. Prier sans cesse, c'est respirer, c'est comme respirer avec Dieu. C'est être dans un lien permanent avec Dieu. C'est l'avoir à son côté, à tout moment. C'est être comme vitalisé par la communion constante avec lui. Prier et prier sans cesse. Ce n'est pas abandonner toute activité, ce n'est pas renoncer au monde, ce n'est pas passer son temps agenouillé. Il est bon, bien sûr, de passer des moments particuliers dans la prière, seul ou avec des frères, consacrer du temps spécifiquement à cela. Mais prier, c'est plus. c'est encore une fois respirer l'Esprit de Dieu. Quoi que l'on fasse, c'est le faire dans la communion à Dieu, lui en rendant grâce, demandant son soutien, dialoguant avec lui, l'écoutant aussi, reconnaissant nos fautes. C'est le matin, vous êtes en train de vous préparer. Vous pouvez prier Dieu. Vous êtes sur le chemin du travail. Dieu chemine avec vous, dans le train, dans la rue. Prier, c'est prendre conscience de la présence de Dieu. Vous êtes au travail, Dieu est là aussi. Vous êtes absorbé dans le travail, Dieu vous y accompagne. Vous soufflez un peu, vous pouvez prier Dieu. Vous regardez à lui, vous êtes réconforté, encouragé. C'est peut-être très bref. C'est comme une profonde inspiration que l'on prend à certains moments entre deux efforts physiques. Vous vous réjouissez dans le repos, dans la détente. Dieu est là aussi. Vous pouvez l'associer à votre paix, à votre contentement, à votre bonheur. Le prier, c'est lui dire merci, c'est véritablement doubler son bonheur par le rappel intérieur de tout ce qu'il vous donne, de tout ce qu'il est pour vous. Même ces choses si simples, il fait beau. Le ciel est bleu, les petits oiseaux, la nature, les fleurs qui commencent à montrer le bout de leur nez. C'est agréable pour chacun. Mais si vous savez que c'est Dieu qui vous donne ces choses, pour que vous en jouissiez, que vous puissiez le remercier, certes vous en jouissez au moins deux fois plus. Quel privilège. Dans l'épreuve, le prier, c'est être soutenu. C'est savoir que l'on n'est pas seul. C'est pour pouvoir vivre cette réalité. Nous sommes fils et filles d'un Père qui nous aime. Celui, celle qui vit cette vie de prière constante avec son Dieu, celui-là, celle-là, est vraiment un privilégié. Car il n'est jamais seul. Il a un guide, un consolateur, un confident, un conseiller, un ami. Plus que cela, il est perpétuellement nourri par son Père, qui l'éclaire, lui montre le chemin, lui donne tout ce qui est bien, bon, juste et beau. Alors comment se fait-il que nous négligions trop souvent cette communion? Comment se fait-il que nous considérions trop souvent la prière comme un simple recours en cas de situation difficile ou comme une espèce d'obligation, de discipline? Et il est bon, parfois, de prier par discipline. Mais pas uniquement. Peut-être parce que nous oublions qu'elle est une grâce de Dieu. Parce que nous oublions qu'elle est un moyen merveilleux d'être toujours joyeux. Peut-être parce que nous manquons d'amour pour notre Père. Nous avons du mal à croire que Dieu nous offre vraiment une telle relation de communion avec lui. Nous avons du mal à croire cela, à le vivre assez. Et pourtant, c'est bien là ce qu'il nous donne, en effet, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. J'ai lu un jour quelque part que les chrétiens évangéliques passaient en moyenne environ 3 minutes par jour à prier. Je ne sais pas si cela correspond à une réalité, je ne sais pas si c'est intéressant à savoir ou à mesurer. Je ne sais pas combien de fois par jour ils prient en moyenne. Combien de fois par jour vous priez? Je ne sais pas, je n'ai pas compté moi-même combien de fois je priais. Priez sans cesse. Passez du temps avec Dieu. Mettre du temps à part pour cela, comme Dieu le recommande, se mettre à l'écoute. Se retirer pour avoir cette communion particulière avec le Seigneur. Mais au-delà, vivre à tous les instants en permanence dans l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire être dans cette relation de prière continue, comme dans le repos, comme dans le travail, dans l'épreuve, comme dans la joie, dans la jeunesse, comme dans la vieillesse, dans la solitude, comme dans la foule. En préparant cette méditation, je m'arrêtais fréquemment quelques secondes pour demander à Dieu son aide, pour requérir son inspiration. Avant de parler ce matin, j'ai prié, alors que je parle, peut-être certains d'entre vous on priait comme vous avez prié au début de cette journée, que Dieu bénisse sa parole pour eux-mêmes et pour les autres. Et lorsque j'aurai terminé, je sais que sans doute certains d'entre vous prieront encore, que Dieu fasse que Sa parole porte du fruit, nous aide à grandir, à mieux le connaître, à mieux le servir, à mieux l'aimer. Oui, la prière peut nous accompagner, assaisonner toute chose de ce que nous vivons. Notre prière, c'est que Dieu nous aide à vivre ainsi. Nous réjouissons de cette porte ouverte qui nous permet d'atteindre notre Père. Non à cause de ce que nous sommes, non à cause de nos mérites, de nos œuvres, de nos actions, mais par grâce. Oui, la parole de Dieu, c'est vrai, elle est surprenante, déroutante parfois, parfois paradoxale, mais elle est vérité et vie. Elle est ce dont nous avons besoin pour être transformés et toujours plus nous rapprocher de Jésus-Christ, notre modèle. Lui qui a vécu dans l'absolu, dans la perfection, ce lien permanent de la communion avec son Père, en acceptant cette séparation d'avec lui sur la croix. Ce moment terrible, en acceptant cette séparation, pour que nous-mêmes, nous ne connaissions jamais un tel abandon. Oui, Christ a rendu possible cet accès auprès du Père. Vivons cela pleinement. Dieu prend plaisir aux prières que nous faisons monter vers lui au nom de son Fils. Profitons de ce privilège inouï. Pouvoir communiquer, plus que cela, pouvoir communier avec le Dieu éternel, notre Père. Profitons de ce privilège. Prions sans cesse. Dieu lui-même nous y invite. Prions sans cesse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.